1 Timothée chapitre 5, et on va lire tout le chapitre et on va aller vers le chapitre 6 jusqu'au deuxième verset. Donc 1 Timothée chapitre 5, verset 1. Verset 1, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'a pas moins de 60 ans, qu'elle était une femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toutes bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Ne refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier, en se rendant coupables qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves qui les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister ceux qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Vous avez remarqué qu'on peut lire un chapitre de la Bible en l'espace de 5 minutes. Ça devrait nous stimuler, on va lire 2 par jour, minimum. Et si on en lit 3 par jour, ben on arrive peut-être à lire la Bible en entier. On continue cette étude dans l'épître de Timothée et on voit maintenant qu'on arrive aux soins qui sont prodigués dans l'Église. On a vu que Paul avait structuré l'Église au départ, qu'il avait démontré que sans la doctrine, il était difficile d'avoir une bonne pratique. Et maintenant, il aborde l'amour, on pourrait dire de façon pratique, l'amour qui se traduit dans les soins qu'on peut avoir les uns pour les autres. Est-ce que vous aimez bien qu'on s'occupe de vous ? On serait maso si on disait le contraire. Hein. On aime bien quand les gens s'occupent de nous. Mais aussi, des fois, il est bien que nous-mêmes, nous nous occupions des autres. Hein, et c'est ce qu'il est en train de dire là. Et donc, une église qui prend soin d'elle-même, des uns des autres, et tout simplement, elle va mettre en pratique l'amour. Hein, on sait qu'il faut aimer son prochain, mais comment on le démontre ? Et là, l'apôtre Paul va dire à Timothée, démontre-le par plusieurs choses. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir d'abord les soins que le pasteur doit avoir à l'encontre de l'assemblée, enfin, une partie seulement, parce que la Bible dit beaucoup d'autres choses. Ensuite, les soins que l'assemblée doit avoir vis-à-vis des veuves. On pourrait les tirer généralement vers ceux qui sont dans le besoin. Puis ensuite, vis-à-vis du pasteur, et puis l'assemblée vis-à-vis de la société. Alors, les soins pastoraux envers l'assemblée, ils parlent là quelque chose de difficile, qui est de reprendre. Mais reprendre avec respect. Je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous si on doit se reprendre les uns les autres. Le mot grec est quand même assez fort parce qu'il dit dans le mot reprendre, c'est frapper, battre, quand même. Hein. C'est quand même pas rien. Donc si je viens vers vous, c'est pour vous frapper, pour vous battre. C'est ça? Non, je pense pas. Mais c'est quand même reprendre avec des mots durs, c'est-à-dire quelque chose qui parle. Hein, si vous reprenez en cajolant les gens, ça ne change à rien. Quand vous corrigez vos enfants, vous ne leur faites pas des bisous, évidemment. Les punissez. Enfin, pas la même chose, mais quand même, on s'entend. Il s'agit donc de reprendre le péché, parce que là, on est dans une situation de quelqu'un qui a péché, et le pasteur va le voir. Il ne s'agit pas de lui faire un reproche, mais essayer de lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Hein, ça doit être fait avec respect et avec amour. Quelqu'un écrivait, il ne faut pas casser les vitres, mais il faut bien les nettoyer. C'est ça la différence. Hein. On peut venir en faisant un reproche, en cassant une personne parce qu'elle est dans le péché, et puis eh ben, la personne est brisée, finalement, vous n'avez pas abouti à ce que vous voulez. Par contre, si vous venez en disant les choses clairement, mais en même temps avec beaucoup d'amour et de respect, il y a peut-être l'espoir que la personne change d'attitude et retrouve sa vie normale. Hein. Moi, je me pose toujours la question, quand Dieu me reprend moi, comment il fait? Parce qu'on est très dur avec les autres. Par contre, quand Dieu me reprend moi, il est plein d'amour, plein de compassion. Et je pense qu'il y a là une image de la manière dont on doit reprendre son prochain. C'est donc une réprimande respectueuse qui essaie d'attirer l'attention de la personne, hein, pas de la briser, d'attirer l'attention pour qu'elle puisse entendre ce qu'on est en train de lui dire, discuter, partager, et finalement, pourquoi pas changer la route qu'elle avait prise. Puis Paul dit, c'est une espèce de réprimande comme on fait aux membres de sa famille, hein, puisqu'il dit, il reprend le vieillard comme des pères. Hein, vous n'allez pas voir votre grand-père en disant, t'es un nul, t'es bidon, et tout ça. Il y a un respect à avoir pour cette personne, quand même. C'est la même chose. Ou les jeunes gens comme des frères. Ou les femmes âgées comme des mères. Ou les jeunes femmes comme des sœurs. Il y a, dans cette réprimande que le pasteur doit avoir, et je pense chacun d'entre nous, hein, parce qu'on peut aussi se reprendre des fois, il y a cet aspect familial quelque part. Je fais ça parce que c'est un membre de ma famille. Et je vais avoir autant d'amour que j'aurai pour ma famille quand je reprends quelqu'un. Et puis il dit aussi les femmes âgées comme des mères et puis les jeunes femmes comme des sœurs. Il parle à Timothée avec pureté vis-à-vis des femmes. Parce qu'il faut savoir que Timothée, je ne pense pas qu'il était marié à ce moment-là. Et des fois, devait reprendre peut-être ces jeunes veuves-là. Et c'est un garçon, hein, pas oublié. Enfin, pour moi, j'ai pour l'habitude de ne pas aller vers les femmes toutes seules, mais... Il devait aussi les reprendre, et donc il dit, fais ça avec beaucoup de pureté, hein, qu'il n'y ait pas des mauvaises idées derrière, dans ta tête. Et puis, non seulement il faut savoir corriger, mais il faut en même temps savoir exhorter. Si vous allez chez quelqu'un et vous dites, t'as péché, et tu t'en vas. Oui, mais vous rigolez, mais ça c'est 90% des cas, généralement, hein, de la manière de faire. Mais Paul dit, tu reprends, mais en même temps tu exhortes, tu vas encourager. Hein. Tu reprends le péché, mais maintenant tu vas consoler. Parce que le mot qu'il est en train d'employer là, exhorter, c'est le même que le mot consolateur, en parlant du Saint-Esprit, ou avocat, dans 1 Jean 1,9, hein, où il dit qu'il est notre avocat. Donc quand je vais vers quelqu'un pour le corriger, je deviens en même temps son avocat. Hein. Je veux bien lui faire montrer qu'il a tort, mais en même temps, je veux l'aider à aller plus loin, l'exhorter, l'encourager à quitter ce péché, mais en même temps à reprendre un peu sa vie spirituelle. Donc on n'est pas là pour briser les gens, on est là plutôt pour les aider. Il faut savoir qu'un jour, ça sera notre tour d'être pris. Et on aimerait bien être pris de cette manière-là. C'est donc encourager quelqu'un comme si vous étiez l'avocat de quelqu'un et non pas le juge de cette personne. C'est Dieu le juge, hein. Lui il s'en occupera s'il se moque de vous, s'il ne veut pas entendre. Mais nous, on est là pour aimer et encourager notre prochain. Et vous savez, si vous allez reprendre quelqu'un, il faut que vous ayez beaucoup d'amour. J'ai entendu beaucoup de choses déjà dans ma vie. Des moments où il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, de compassion pour les gens et d'écoute, parce que sinon on a envie de fuir, ou alors on a envie d'être trop dur avec ces personnes-là. C'est pas évident non plus. Mais, voilà, le rôle de les soins, on va dire, pastoraux, une partie des soins, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on reste dans le texte. Hein. Donc, le pasteur, les anciens doivent s'occuper de toute l'assemblée, et s'occuper de l'assemblée, c'est pas simplement faire des bisous-bisous, hein. De temps en temps, il faut aussi reprendre, parce que c'est le berger qui reprend les brebis, qui veut les emmener dans le bon pré et dans les bons pâturages. Après, évidemment, c'est à l'Assemblée d'accepter aussi les soins, parce qu'on peut dire non. Hein. Vous aimez vous faire reprendre, vous ? Pas trop, hein ? Mais des fois, ça doit arriver, mais il faut les accepter aussi, parce que le Seigneur le fera de toute façon d'une autre manière. Hein. Si jamais on refuse, Dieu arrivera derrière et sera peut-être plus dur des fois. Ensuite, Paul se focalise sur les soins de l'Assemblée vis-à-vis des veuves. On pourrait l'élargir, mais on reste sur le texte. Mais quand on parle des veuves, on voit là les personnes qui sont dans le besoin, dans l'Église. Et donc, il parle de ces veuves. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, déjà, ces veuves étaient sous protection, normalement, du peuple. Et on devait s'en occuper. Hein. On voit ça dans Deutéronome 10, 18. Hein. Il dit qu'il fait droit à l'orphelin, à la veuve qui aime l'étranger, et lui donne de la nourriture et des vêtements. Déjà, en Israël, il y avait cette idée de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, et aussi des veuves. On voit dans Actes 6, 1, quand ils ont choisi les diacres, que là aussi, il y avait des soins qui étaient apportés vis-à-vis des veuves. Le mot « veuve », en grec, ça signifie « c'est la femme dont le mari est décédé ». On comprend très bien ce que c'est. Mais le mot peut aller un petit peu plus loin, ou la pratique allait un peu plus loin à l'époque. Ça pouvait être une femme qui était abandonnée par son mari. Ça arrivait à l'époque. Hein. Ou alors quelqu'un qui était divorcé, et puis le mari l'a complètement laissé tomber. Ou peut-être plus largement, une femme qui était démunie. Aujourd'hui, mesdames, vous pouvez aller à la CAF, chercher des besoins, etc., si jamais vous êtes toute seule. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc, il faut bien se remettre aussi un peu dans le contexte. Quand une femme était quittée par son mari, elle se retrouvait sans rien du tout. C'était vraiment difficile. Et il insiste sur une chose, c'est surtout sur celles qui le sont réellement veuves. Dans le sens où peut-être qu'il y avait des veuves, des jeunes veuves, hein, ou des veuves un peu plus âgées, mais qui avaient des parents, des enfants, et qui pouvaient s'occuper en fait de cette veuve. Donc il distingue celles qui n'avaient absolument aucun soutien de celles qui pouvaient avoir un soutien de la part de sa famille. Et elles ont besoin de réconfort, et c'est tout à fait normal que si on vient de perdre son mari, on ne va pas dire « vas-y, continue hein. », on va essayer de prier, d'encourager cette personne à aller de l'avant. Mais il se focalise sur celles qui sont défavorisées, et il dit à l'Église, si vous voyez ce genre de besoin, ben dites pas « on va prier pour vous hein. », pas souvent on le dit. Hein. Non, on va commencer à l'aider de manière physique, avec ce qu'on a évidemment, mais je pense qu'un peu de libéralité n'est pas impossible non plus. Hein. Souvent on dit « oui, on va prier pour vous », mais le Seigneur nous demande aussi d'agir, hein. Ça ne sert à rien de prier. Dieu va pourvoir d'une autre manière peut-être, mais il veut aussi que nous, on mette la main à la poche et qu'on aide en tant qu'Église aussi ces personnes. L'Église doit donc évaluer les besoins des veuves. Hein. On voit plusieurs cas. D'abord, la veuve qui a une famille. Donc, on l'a dit, hein, il y a une obligation familiale de s'occuper de cette veuve. Marc 7, 10 rappelle « Honore ton père et ta mère ». Et dans cette façon d'honorer les parents, il y a aussi les aider quand elles sont dans la difficulté, tout particulièrement la maman. Et il rappelle que c'est une espèce d'acte de reconnaissance. Hein, les mamans, qu'est-ce que vous faites pour les enfants ? Pas grand-chose, hein ? C'est ça ? Vous les éduquez, vous prenez soin, tous les jours vous êtes là pour les consoler, etc. Et à un moment, ben, les enfants, ils doivent se dire quand même que quelque part, la piété, c'est aussi avoir de la reconnaissance vis-à-vis de ses mamans. On n'est pas souvent comme ça, les enfants. On oublie vite maman et papa parce qu'on veut faire notre vie. Hein, mais Paul rappelle que là, c'est de la piété que de rendre à celle qui nous a donné. Et c'est formidable de s'arrêter un petit peu, de se dire, mais c'est vrai, ma maman, qu'est-ce qu'elle m'a donné dans ma vie ? Alors nous, aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être beaucoup plus difficile d'éduquer les enfants, de travailler, etc. Et donc, à un moment, ben, hop, on inverse les rôles, et c'est maintenant à moi, en tant qu'enfant, ben, d'essayer d'assister ma maman, qui est la veuve dans le cas, mais peut-être, même s'ils étaient encore vivants tous les deux, c'est un acte de reconnaissance. On demande toujours à Dieu, ah, comment te prier, te louer, te célébrer, etc. Ben, s'occuper de ses parents, ben, c'est aussi une façon d'adorer Dieu et d'être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Hein. C'est agréable à Dieu, dit Paul. Et il dit qu'il ne faut pas... si je ne le faisais pas, je renierais même ma foi. Je serais pire qu'un infidèle. Je ne sais pas si vous imaginez comment il accentue ça. Parce que les païens s'occupent de leur famille. Alors si moi, je suis chrétien et que je m'en fiche de ma maman ou de mon papa qui sont dans le besoin, là, je suis pire qu'un infidèle. C'est grave ce qu'il est en train de dire là. Donc à nous de réfléchir, hein. Alors en France, on n'est pas trop comme ça de s'occuper de ses grands-parents, hein. Des parents, hein. Dès qu'on peut, on les met dans une maison de retraite et puis c'est réglé. Hein. Ça, c'est la culture. Bon, après, il y a d'autres cultures qui ne sont pas meilleures forcément, mais ça doit faire réfléchir et comment est-ce que je m'occupe d'eux. Et c'est un acte de piété aussi. Et puis ensuite, il y a les veuves qui sont sans famille. Ça, c'est celles qui avaient une famille. Maintenant, on vient vers celles qui n'ont pas de famille, qui le sont réellement et qui sont privées de tout, hein. Soit le mari est parti dans un autre pays, soit il est décédé et elle n'a pas d'enfant derrière. Elle se retrouve dans une société qui ne l'aide pas et elle n'a rien en fait. Donc là, il est dit, elle met son espérance en Dieu. Quand il dit ça, en fait, il est en train de dire que c'est l'Église maintenant qui est responsable de cette dame. Si elle met son espérance en Dieu, c'est qu'elle espère que Dieu va s'occuper d'elle. Et Dieu a dit, c'est à l'Église maintenant de s'occuper de cette veuve. Donc si on voit des gens dans la difficulté, c'est à nous, mais si elles ne peuvent pas faire autrement, hein, c'est à nous de nous en occuper. Aujourd'hui, il existe beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de services sociaux, etc., parce qu'on est souvent venu me voir pour des besoins, mais il y a d'abord des choses à faire, il y a des étapes à voir. Puis bon, si vous faites des crédits et que vous vous retrouvez sans argent à la fin du mois, à un moment, il faut faire attention aussi, on est bien d'accord. Mais elle met son espérance en Dieu dans le sens où l'Église trouve sa responsabilité à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Elle mène une vie pieuse aussi, elle dit, une vie de prière évidente et une vie de confiance en Dieu. Ce qui est formidable dans l'Église, c'est que quand il y a un problème, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, on ne peut pas gérer tous les besoins des uns et des autres, mais il devrait y avoir une espèce de solidarité qui devrait être là, hein, prendre soin les uns des autres. Le monde s'en fout de vos problèmes, mais pas l'Église, normalement. Alors, on ne peut pas gérer les situations de chacun. On peut prier comme on l'a dit, et dans la mesure où on peut, on va essayer d'aider, dans le sens où c'est vraiment légitime aussi, on est bien d'accord. On ne veut pas payer les crédits d'un superbe Porsche de monsieur ou de madame, on est bien d'accord. Ou alors vous me la prêtez. On peut trouver un consensus. Et puis il y a la veuve aussi, la jeune veuve hein, qui vit dans le plaisir, au verset 6, hein, le mot plaisir signifie vivre dans un grand luxe, dans une vie de volupté et de plaisir. Certainement qu'il y avait des jeunes veuves qui... Une fois qu'elles avaient perdu leur mari, commençaient à vivre un peu dans la débauche, dans le n'importe quoi. Et il dit, elles sont mortes spirituellement. Et là, il dit à l'Église de ne pas s'occuper de ce genre de personnes parce que ça ne sert à rien finalement. On donne de l'argent à quelqu'un qui va le dilapider pour rien, qui ne cherche pas à vivre spirituellement sa foi. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et puis il parle de ces veuves enrôlées au verset 9 à 10. Hein, peut-être que vous avez déjà lu, vous êtes posé la question, mais c'est quoi ces veuves ? Alors, celles qui sont inscrites sur le rôle, il dit, c'est très difficile de savoir ce que c'est, mais si on lit des livres de l'époque aussi, hein, des sources extra-bibliques comme on dit, on voit qu'il y avait des veuves qui avaient un certain travail dans l'église locale. Et elles exerçaient une espèce de ministère qui était à la fois spirituel mais aussi pratique, hein, auprès d'autres femmes. Et je trouve ça formidable, hein, parce que des fois on se dit, qu'est-ce qu'on va faire à la retraite ? Haïti, voyage, on peut peut-être aussi s'occuper des autres. Et certainement, c'est ce que faisaient ces dames un peu plus âgées. Hein. Elles avaient un espèce de rôle pour assister l'Église. Et comme quoi, hein, on peut être retraité et toujours au travail dans l'Église. Hein. Venez pas me voir en disant, ça y est, j'ai la retraite, je ne fais plus rien dans l'Église. Ça ne marche pas ici. Hein. Mais elles avaient un rôle et certainement un amour pour ces femmes et les aider, les encourager spirituellement. Alors, il y a des conditions. Hein. Alors, mesdames, hein, si vous voulez vous inscrire sur le rôle, il fallait avoir 60 ans. Pas jeune déjà. Alors pourquoi 60 ans ? Certains pensent parce qu'à cet âge-là, elles avaient le temps, d'abord, puis elles avaient une certaine maturité aussi pour aller vers l'autre, les autres femmes, de l'expérience certainement dans leur vie chrétienne et pour servir aussi. Si vous voulez assister quelqu'un, aider quelqu'un, il faut qu'il y ait une certaine maturité si la personne est dans un combat ou dans des difficultés. Donc certainement, c'est pour ça qu'elles devaient avoir un certain âge. Elle devait être femme d'un seul mari aussi, c'est comme pour les anciens ou les diacres, on avait vu ça la dernière fois. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas se remarier, ça n'empêchait pas ça, mais ça veut dire qu'elles étaient fidèles à leur mari à l'époque. Et de cette fidélité, on va voir la fidélité qu'elles vont avoir dans leur travail. Hein, parce qu'elles faisaient une espèce de vœu, si j'ai bien compris, pour servir dans ce domaine-là. Donc ce n'est pas « je m'inscris sur le rôle et trois semaines après, je dis « oh non, j'en ai marre, j'arrête ». Elles s'engageaient dans un ministère. Et elles devaient avoir certainement beaucoup d'amour et d'humilité, parce qu'elle devait aider, elle devait soigner, elle devait secourir toutes ces personnes qui étaient affligées. C'est pas simple d'aider ceux qui sont dans la difficulté. C'est vraiment pas simple. Et il dit que, bon, pour ces veuves, les jeunes ne devaient pas s'enrôler dans ce travail. Pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer qu'une veuve qui vient de perdre son mari est dans la tristesse, hein, et elle est complètement bouleversée. On a vu qu'elle sera aussi soutenue par l'Église, et alors elle dit, bon, par amour, j'ai envie de m'engager. Mais elle est jeune. Et puis peut-être elle va trouver un nouveau mari. Et puis la vie va reprendre. Et finalement, elle va rompre le vœu, l'engagement qu'elle a pris à ce moment-là. Et on voit aussi, hein, Paul le dit, que ben, ces jeunes veuves étaient assistées. Et parce qu'elles étaient assistées, elles devenaient oisives, intrigantes. Vous pouvez imaginer, hein, blablabla. Ou alors elles allaient de maison en maison et finalement se remariaient. C'est pas mal en soi de se remarier, mais finalement elles s'étaient engagées à faire quelque chose, mais elles rompent leur engagement et évidemment ne font pas le travail qui était demandé. Donc il dit que ces jeunes veuves, plutôt que s'engager sur le rôle, ben, qu'elles se remarient et qu'elles s'occupent tout simplement de leur foyer. Il n'y a aucun mal à le faire. Il ne faut pas jouer les grands spirituels des fois, vouloir faire plus que ce que Dieu nous demande. Hein. Enfin, on veut s'engager dans des choses. J'ai connu des gens comme ça qui voulaient faire du social, mais à la fin, elles étaient déprimées, dépressives carrément, parce qu'elles n'arrivaient pas à suivre le mouvement. Dieu ne donne pas ce don à chacun. Dieu ne dit pas à tout le monde de s'occuper des cas les plus graves. Il le donne à certains, mais pas à tous. Par contre, on peut s'occuper quand même des uns et des autres. Donc c'est formidable de se dire qu'on est dans une église et que quoi qu'il arrive dans cette église, parce que là on va un peu tirer la pratique, on pourrait dire, ben finalement on risque rien. Enfin, je ne sais pas si on sent l'église de cette manière-là. S'il peut nous arriver des difficultés dans la vie, normalement on devrait pouvoir s'entourer les uns les autres. Que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement dans la mesure où on peut le faire, pas en profitant de l'église, on est bien d'accord. Mais voilà, en fait j'ai une famille, c'est pas génial ? Une plus grande famille hein, que mon papa, ma maman ou mon grand-père et ma grand-mère. J'ai vous comme famille. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Ouais, bon, vous n'avez pas l'air... Purée, je te dis pas la famille, quoi. Chérie, on s'en va. Hein. Est-ce qu'on réalise ça, franchement ? Est-ce qu'on prend soin les uns des autres de cette manière-là ? C'est bien de prendre le temps de réaliser. Et quand l'Église est vraiment active, ben Paul et le Seigneur derrière dit il faut prendre soin des plus défavorisés, de ceux qui passent dans la difficulté, toujours dans la mesure où on peut le faire. Par contre, si la famille, ou si une famille existe, c'est à eux de s'occuper. Donc si vous venez me voir et que vous avez des difficultés, je vous poserai la première question, est-ce que vous avez des parents, des grands-parents, des gens qui peuvent vous aider ? Donc c'est à eux maintenant de s'occuper de vous. Par contre, si vous êtes dans la difficulté, on verra, on en reparlera. Ensuite, il parle dans un troisième temps des soins de l'assemblée envers le pasteur. Il dit « Honore les anciens et les pasteurs ». Ça, c'est pour moi. Hein. « Ceux qui travaillent pour l'Église, ceux qui dirigent bien, ceux qui prêchent », il dit, c'est-à-dire qui annoncent le logos, la parole, et ceux qui enseignent, c'est-à-dire qui dispensent la doctrine. Hein. Il demande d'honorer les pasteurs et ceux que vous avez choisis, finalement. Hein, parce qu'on voit bien souvent dans l'Église, on choisit un pasteur et après, on le lâche. Débrouille-toi. Et on est en conflit constamment avec lui. Parce que, bon, c'est vous qui l'avez choisi, hein, n'oubliez pas. Eh oui, c'est ça le problème. Donc il faut aussi qu'elle comprenne, l'Assemblée, que c'est du travail. Hein, j'avais dit la dernière fois, Rémi et Jean-Baptiste savent ce que c'est que préparer un sermon ou une étude biblique. C'est beaucoup de travail. Alors, je sais pas, moi j'ai l'habitude depuis. Mais il y a un travail qui est fait. Parce que souvent on dit, le pasteur, il fait rien durant la semaine, et il est là le dimanche matin, et il dispense son petit message, et c'est réglé. Ben, venez voir déjà commencer de préparer un message, ensuite une étude biblique, puis ensuite aller prendre visite, etc. Puis il y a des côtés administratifs et tout ça. Les 35 heures, hein, il y a longtemps qu'ils sont dépassés, bien souvent. Alors, je ne veux pas valoriser ça, mais bien faire comprendre que normalement, je dis aussi normalement parce que ce n'est pas tous comme ça, mais un pasteur travaille dans l'Assemblée. Et Paul veut qu'on reconnaisse cela. Et il mérite même un double honneur, il dit, hein, alors faites ce que vous voulez, mais... Lui, il dit ça. L'honneur, c'est aussi le prix ou une indemnité. Hein, il veut à la fois qu'on respecte, qu'on apprécie le travail du pasteur, et en même temps bah, qu'on l'aide d'une manière ou d'une autre. Et il rappelle deux idées qui sont et à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Hein, le bœuf, hein, par exemple, il compare le pasteur à un bœuf, merci. Enfin bon, tu n'emmuseras point le bœuf quand il foulera le grain. Le bœuf, à l'époque, quand il travaillait dans les champs, il avait le droit aussi de manger. Il récupérait pour lui, c'était son salaire. Et dans Luc 17, il dit « car l'ouvrier mérite son salaire ». Vous imaginez si à la fin du mois, votre patron ne vous donne pas votre salaire. Vous allez dire quoi ? Bah, j'ai travaillé, non ? Et je mérite mon salaire ? Bon non, j'ai pas envie. Tiens, j'ai pas envie. Bon, vous avez au moins le... Comment ça s'appelle ? Vous pouvez aller râler, là. Mais c'est exactement l'idée. Il y a un travail. Hein? Il y a un travail derrière. Et Paul démontre que l'honneur, c'est aussi une rémunération. Alors ça dépend évidemment de l'Église et de ses possibilités, on est bien d'accord. Mais derrière, il y a un respect, déjà au moins pour le travail qui est fait. Et c'est un principe biblique. En même temps, on voit une autre chose, et là, il réglemente d'une certaine manière. Ben, on aime bien accuser les pasteurs. Ça, c'est très facile. Hein. De toute façon, à partir du moment qu'on est devant... forcément, on sera toujours critiqué. Hein. Si vous voulez être un jour pasteur, acceptez aussi d'être critiqué. Monsieur Fillon le voit en ce moment. Quand on est en haut, forcément, enfin moi je ne me sens pas en haut, mais quand on a une responsabilité, forcément, voilà, les bruits de couloir, etc. C'est bien, hein. Après on n'est pas parfait, et moi ça ne me gêne pas qu'on critique tant que c'est constructif. Si c'est juste pour parler, ça ne sert à rien. Hein. Mais si c'est constructif, c'est bien. Par contre, à l'époque certainement, et peut-être que le pauvre Timothée était dans le cas, il était peut-être accusé de telle ou telle chose. On se souvient qu'il est jeune. Donc certainement qu'il y avait peut-être des gens plus âgés qui disaient « Ah, mais c'est un jeune pasteur, hein, etc. » Donc il n'est pas capable. Mais il dit, Paul, si vous voulez accuser le pasteur, c'est sur la base de 2 ou 3 témoins. Hein, si vous dites qu'il a fait ça, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. C'est exactement le même principe que dans Deutéronome ou dans la loi. Hein, parce qu'à l'époque, si on voulait condamner quelqu'un, il fallait qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins. C'est trop facile de dire « Moi, j'ai vu » et puis c'est réglé. Parce que je ne l'aime pas, tout simplement. Bon, c'est valable même pour d'autres choses. Donc il dit, avant d'accuser le pasteur, avant qu'il y ait des rumeurs, il faut qu'il y ait des preuves aussi, réelles. Et s'il y a 3 témoins qui disent, oui, effectivement, il a fait telle chose, à ce moment-là, on peut considérer l'affaire comme étant réelle. Et si le pasteur a fauté, eh ben, il est dur, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il doit être devant l'Église, être discipliné devant l'Église, et dit pour que ça soit, non seulement pour lui qu'il soit repris, mais qu'il y ait la crainte pour les autres aussi. Qu'on ne se dise pas qu'on peut faire ce qu'on veut dans l'Église non plus. C'est pas, on rigole pas dans l'Église. On est là sérieusement et on travaille sérieusement. On n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais quand il y a une grosse faute, hein, si je trompais ma femme, c'est devant vous que je devrais demander pardon. Et c'est normal. Et en même temps, ça produirait de la crainte dans vos cœurs. Enfin, j'espère. Donc, savoir aussi corriger, et il dit sans favoritisme. Hein, parce que le pasteur a fait une faute, ça fait longtemps que je le déteste. Maintenant, c'est l'occasion de le planter, de l'écraser. J'ai connu ça, donc je parle par expérience. Mais Paul dit de le faire avec sans préjugé, sans favoritisme, avec partialité. C'est dur de juger quelqu'un et de laisser ses sentiments loin, hein, et d'être droit et juste, comme Dieu le serait, face à quelqu'un qui est dans l'épreuve ou dans la faute. C'est pas toujours évident. Hein. Mais c'est valable pour nous aussi, quand on reprend quelqu'un. Hein. Souvent, on a nos sentiments vis-à-vis de quelqu'un, et ça altère notre jugement. Si on peut écraser, on va écraser. Ben Paul lui demande d'être beaucoup plus sage que ça. Pas de favoritisme, pas de préjugés vis-à-vis d'une personne. On le juge comme Dieu le ferait. Et puis, il dit une chose curieusement après, c'est pour cela qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de choses avec ses mains imposées. Hein. On communique le Saint-Esprit, on guérit, etc. Ça n'a rien à voir dans la Bible. Hein. Déjà, là, il dit déjà de ne pas précipiter pour imposer les mains. Mais imposer les mains n'a jamais guéri quelqu'un, n'a jamais transféré quelque chose, ça n'a rien à voir du tout bibliquement. Là, on peut se poser la question, est-ce que c'était pour restaurer l'ancien qui était discipliné? C'est-à-dire, il est repris devant l'Église, et après un temps d'essai, peut-être qu'on le prenait devant l'Église, et puis on imposait les mains à cette personne, on s'identifiait à lui, hein, et pour reprendre de son service. Ce n'est pas parce qu'on a fait une faute qu'on ne peut pas demander pardon et recommencer. C'est valable pour tout le monde d'ailleurs. Ou alors, est-ce qu'il s'agit, au moment où on établit les anciens, on parle là d'ordination généralement, on me l'a fait à moi, c'est qu'on va imposer les mains pour s'identifier à la personne, pour prier pour cette personne, pour que Dieu l'aide. Ça correspond plus, on va dire, aux actes bibliques. Hein. Mais ce qu'il veut dire là simplement, c'est que avant que vous arriviez à imposer les mains, prenez le temps de choisir vos anciens ou vos pasteurs. Prenez le temps. Hein, parce que des fois, on veut le faire vite parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, etc. Mais peut-être qu'il va tomber très vite dans la faute. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui aiment l'argent, qui aiment les femmes, qui aiment un tas de choses et qui se disent pasteurs et qui finalement font le contraire de ce que Dieu demande. Donc, ne pas imposer les mains avec précipitation, je dirais, ne choisissez pas trop vite vos anciens. Prenez le temps pour être sûr qu'ils ne vont pas tomber dans l'erreur. Si vous regardez dans les autres textes de la Bible, hein, par exemple Paul et Barnabas, on va leur imposer les mains avant d'être envoyés en tant que missionnaires. On n'a rien transféré comme puissance là, simplement on s'identifie dans la mission qu'ils vont faire. Et derrière, on dit en même temps, on va prier pour eux, tout simplement. Ensuite, il parle de ce vin. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le passage et vous dites, mais pourquoi il demande de boire du vin? Il n'était pas américain, Timothée. Les Américains n'aiment pas boire. Je vais effacer ça de mon truc, mais... Il dit, quelque part derrière, il dit de ne pas imposer au pasteur quelque chose qui est au-delà du biblique. Je vais résumer ça. vous souvenez, on avait parlé d'ascétisme la dernière fois, de ces gens qui demandent de faire des choses, de ne pas se marier ou de se marier mais sans sexualité, enfin, des choses que la Bible ne demande pas. Et quelque part, certains pensent que Timothée ne buvait pas de vin, et donc avec des problèmes d'estomac malgré tout ça, et quelque part, on l'accuserait s'il buvait du vin. Une espèce de forme d'ascétisme. La Bible n'a jamais empêché à quelqu'un de boire du vin. Il demande de ne pas être bourré, hein, de ne pas être saoul. Voilà. Puis il faut savoir qu'à l'époque, il y avait trois types de vin. Il y avait le jus de raisin, il y avait une espèce de vin demi-fermenté, et il y avait le vin à la française, on va dire. Et donc, certainement que Timothée n'osait pas en prendre, alors qu'il en avait besoin, on va voir pourquoi, parce qu'il ne voulait pas être accusé par les uns et les autres. Mais ça, c'est encore du légalisme, là, quelque part. Et Paul reprend ça. Et certainement qu'il y avait là dans l'église soit des gens ou des faux docteurs qui influençaient le pauvre Timothée pour qu'il n'arrête de boire ce vin. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, quand vous buviez de l'eau de cette époque-là, elle était polluée, extrêmement dangereuse à boire. Hein. C'était une eau qu'on ne devait pas trop boire. Souvent, on mélangeait de l'eau avec du vin pour purifier l'eau. Ce n'était pas de l'alcool vraiment, mais ça purifiait l'eau. Et donc, certainement que le pauvre Timothée buvait cette eau parce qu'il a besoin de boire, hein, comme tout le monde. Il n'y a pas de café à l'époque. Hein. Enfin, il y a de l'eau dans le café aussi. Enfin, bref. Et certainement que cette eau lui faisait beaucoup de tort dans son estomac. Et c'est pour ça que Paul dit, prends un peu de vin parce que ça agissait comme une espèce d'agent médicinal. C'était bon pour lui et pour ce qu'il avait comme problème à cause de l'eau. À prendre, évidemment, avec modération. On est bien d'accord. Mais finalement, Paul dit là une chose que je trouve importante, c'est que quand tu as mal, tu peux prendre un médicament. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ayez foi en Dieu, il va vous guérir et tout ça. » Oui, il peut le faire s'il a envie. Mais Paul dit là, tu as des problèmes de santé, prends un médicament. Alors là, c'était de l'alcool, hein, désolé de le dire comme ça. Mais il y a de l'alcool aussi dans nos médicaments. Il y a même des fois de la drogue dans nos médicaments. Vous voyez ça pour le dos. Bref. Mais c'est bien. Ça veut dire que Dieu peut à la fois prendre soin de notre santé, mais il dit aussi « Prenez ». Ce que je vous donne au travers des médicaments, au travers des médecins, etc. On est très, très chrétien, j'ai envie de dire. On a une grande foi qu'on va aussi chez le médecin. Puis on peut prier pour « Donne-lui de la sagesse. Donne-lui de la sagesse. » Pour qu'il voit ce que j'ai réellement. Et dans certains cas, là où la médecine est limitée, Dieu peut aussi guérir, s'il veut. Et des fois, il y a des miracles dans les hôpitaux. On entend souvent des choses assez incroyables. Parce que Dieu est Dieu et il peut tout faire. Mais il ne faut pas se priver de ce qu'il nous a donné. Hein, sinon, on devient une espèce d'ascète, hein, des faux docteurs. Donc, si le pasteur veille sur l'assemblée, elle-même veille sur le pasteur. Elle prend soin de lui, voit comment il est, et on le reprend s'il est nécessaire de le faire. Et puis, au chapitre 6, on voit un peu les soins de l'assemblée. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait formuler, mais il y a des soins vis-à-vis de la société ou un comportement à avoir vis-à-vis de la société. La liberté en Christ était à l'époque très mal comprise. Hein. À partir du moment que je suis en Christ, je suis libre en Christ, donc je fais ce que je veux. Pas chouette, hein, si c'est comme ça. Ah, mais il y en a qui le font. Hein. Ils disent de toute façon, maintenant j'ai été pardonné mes péchés, je peux pécher comme je veux. Et je fais ce que je veux. Et c'est comme ça qu'ils comprenaient la liberté en Christ. Et ceux qui étaient esclaves se disaient, on n'est plus esclaves, puisque la Bible dit qu'il n'y a ni esclave ni maître. Donc ils ne regardaient plus le maître comme étant leur maître. C'est comme vous, si vous alliez demain à votre boulot et vous disiez, écoutez, moi je suis chrétien, je suis libre en Christ, toi tu n'es plus mon patron. Je crois qu'à mon avis, il va y avoir un petit... des problèmes. Mais c'est ce qu'il faisait. J'exagère peut-être, mais c'est ce qu'il faisait. Et cette liberté en Christ commençait à poser des problèmes parce qu'on ne faisait plus cette distinction sociale, en fait. Et Paul reprend cette manière de faire là parce que ça créait forcément des conflits entre les patrons, les maîtres et les esclaves. Il y a une liberté en Christ... mais il y a un respect social aussi encore à avoir. Et donc il parle de ses soins à l'encontre d'abord des maîtres non-croyants. Hein. L'esclave doit servir son maître même païen. Votre patron qui ne connaît pas le Seigneur, le lundi matin, vous devez travailler pour lui. Avec amour, comme si vous le faisiez, il y a un autre passage qui le dit, comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Est-ce qu'on travaille vraiment comme ça ? Est-ce qu'on met son cœur vraiment comme si c'était pour le Seigneur ? Il doit apporter le même niveau de service à ce païen. La raison, c'est simplement parce que s'il ne le fait pas, il n'honore pas Dieu, quelque part. Et en même temps, il bafoue la saine doctrine, il calomnie cette doctrine. Parce que le patron va dire, mais toi, tu es chrétien et tu n'obéis même pas à ton patron, tu ne travailles même pas correctement, tu ne fais rien du tout. C'est ça être chrétien ? Non. Normalement, on devrait être distinct même des autres. On devrait nous remarquer par notre service, par notre travail, sans exagérer évidemment, bien d'accord. Mais c'est là, en fait, l'idée, c'est que quand je vais au travail, quand j'étais esclave à l'époque, hein, mais il fallait quand même conserver une bonne réputation de l'Évangile. Parce que ma façon de vivre va faire une réputation de mon Église, de ce que c'est qu'un chrétien. Et alors là, croyez-moi, les païens, dès qu'ils trouvent une erreur chez vous, hein, ils vous tombent dessus. Et s'ils peuvent bafouer la sainte doctrine, bafouer l'Évangile, alors ils le feront. Quand j'agis fidèlement, comme le Seigneur demande, j'évangélise par la vue, on pourrait dire, par la pratique. Et je peux, pourquoi pas, conduire des gens à se poser des questions sur qui est Christ. C'est quand même fou que toi, tu obéis à ce patron qui est méchant avec toi, etc. Ouais, mais je vais le faire parce que le Seigneur me le demande d'abord, parce que je veux aimer même mon ennemi. C'est pas toujours simple, je sais, hein, j'ai connu ça. Mais je veux le faire parce que je veux garder fidèle ma réputation de l'Église, c'est tout, simplement. Et Dieu est évidemment honoré. Et puis il y a les soins à l'encontre des maîtres qui étaient croyants, parce qu'il y avait certainement dans l'Église des esclaves du maître qui étaient juste assis à côté de lui. Ça devait faire un peu bizarre. C'est comme si j'étais votre patron et que vous veniez le dimanche matin à l'Église. C'est un peu curieux. Mais on voulait enlever en fait cette idée sociale à ce moment-là. Et puis l'esclave commençait à regarder de haut son maître. « Oh, t'es aussi chrétien comme moi, quoi. Donc, hein, tu j'exagère un peu. » Ouais, t'es mon frère en Christ, d'accord, mais ça n'empêche pas que y a des conditions sociales, y a des niveaux sociaux et on va les conserver parce que Dieu nous demande de le faire. Jésus aurait pu venir en disant il n'y a plus d'esclaves, vraiment. Il aurait pu enlever tout ça. Il n'a jamais dit ça en fait. Hein, Jésus n'a jamais repris l'ordre social quand on réfléchit bien. Il a laissé comme c'était. Il a demandé de payer même les impôts. Il aurait pu nous demander de ne pas les payer, hein. Mais bon, on serait en prison si on ne le faisait pas. Donc, l'ordre social, ok, mais ce n'est pas parce que vous êtes frère en Christ que vous devez agir comme si vous étiez supérieur à l'autre. L'amour et la foi commune doivent motiver plutôt les relations. Et si on a compris notre rôle chacun et qu'on sait qu'en plus on est frère et sœur en Christ, alors le travail va devenir incroyable, non ? Ben oui, on va développer la société de notre patron, on a envie de l'aider, de l'encourager à aller de l'avant. Et finalement, ça sera peut-être tout bénéf pour vous aussi, quelque part. Ça dépend si le patron n'est pas trop radin. Voilà un peu les soins, on pourrait dire, hein, c'est très rapide, mais les soins qu'on peut avoir dans la société et vis-à-vis de ceux qu'on croise toute la journée, hein, tout simplement dans le travail. Ces soins sociaux sont dispensés à notre patron, à nos frères et sœurs, mais des patrons païens aussi, des patrons chrétiens, bref, à tout le monde, parce que derrière, ma manière d'agir parle de la réputation de Dieu. Et c'est ça que moi, je ne veux pas qu'on bafoue. Je veux la conserver pure et correcte. Pour terminer, Paul donc recommande hein, à ce Timothée, enseigne toutes ces choses-là. Il doit le faire. Donc je prends la place de Timothée un peu ce matin hein, et je vous l'enseigne à vous ce matin. Et il doit enseigner cette saine doctrine, parce que ça c'est de la doctrine aussi quelque part. Comment pratiquer ma vie sociale, ma vie de travail? Eh bien voilà, il y a là des pistes dans la Bible qui vous disent comment vous conduire. Non, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez aimé votre patron. Désolé. Mais il doit enseigner ces choses. Il veut enseigner la saine doctrine et faire des recommandations pratiques. L'Église, il nous rappelle, doit prendre soin d'elle-même. Que ce soit ceux qui pêchent, qui ont fait mal, on ne va pas les foutre dehors. On va s'en occuper. On va les restaurer. S'occuper des veuves ou de ceux qui sont dans la difficulté. S'occuper du pasteur. S'occuper de la société. Et, bref, la famille s'occupe d'elle-même. Alors, on est une petite famille ici, j'espère qu'elle va grandir un jour, qu'il y aura plus de frères et de sœurs, ça c'est le Seigneur qui décide, hein, mais en attendant, on doit prendre soin les uns des autres. Vous êtes d'accord ? Prenez soin de moi. Et je prendrai soin de vous aussi, ne vous inquiétez pas. Les soins sont l'expression de l'amour. Si tu dis à ton frère que tu l'aimes et que tu t'en fous de lui, tu ne l'aimes pas, en fait. Il faut quand même qu'il le voie à un moment. Par un geste, je ne sais pas comment, il y a mille et une façons de le faire. Mais c'est comme s'il imitait tout simplement le Seigneur. Si Jésus était là dans l'église tous les dimanches, comment il s'occuperait de vous ? Oh, ce serait formidable, non, d'avoir Jésus, hein ? Comme ça, moi, je peux aller à la retraite tranquillement. Hein ? Il prendrait soin de vous et de la même manière, il demande qu'on prenne soin les uns et des autres et exprimer notre amour à son prochain. Agir ainsi, c'est avoir une belle église. Vous voulez une belle église ? Oui, mieux juste à l'église dimanche. Voilà, on est à l'église, allez, il est midi, on rentre. L'église, c'est toute la semaine, hein. C'est pas aujourd'hui. Et quand on prend soin des uns et des autres, c'est pas aujourd'hui. Moi, je nous encourage à vous inviter les uns les autres. Vous connaissez pas? Ah, bah, c'est l'occasion, justement. Hein. Invitez-vous les uns les autres, pas un café, prenez le temps de prier les uns avec les autres. Apprenez à vous aimer, à aller au-delà, peut-être, de nos peurs, etc. Parce que c'est ça, la belle église. C'est pas le dimanche matin. Et en même temps, si je suis une belle église, quelque part, en faisant tout cela, je vais glorifier notre Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ton Église qui t'a coûté la vie à Golgotha et tu l'as chérie aujourd'hui, tu l'aimes et tu l'as démontré par ton sacrifice, Seigneur. Et merci pour cette épître de Paul à Timothée qui nous rappelle que nous sommes un peu autonomes d'une certaine manière et nous devons prendre soin les uns des autres. Tu vois que nous sommes pécheurs parfois et évidemment nous avons besoin d'être repris, mais avec amour comme toi tu le referais. Tu n'aimes pas le péché, Seigneur, mais tu restaures celui qui pêche et tu le fais avec beaucoup d'amour. Seigneur, tu vois aussi qu'il peut arriver que nous avons des gens défavorisés et Seigneur, que ces personnes osent déclarer leurs difficultés aussi et que dans la mesure où nous pouvons, ben, nous puissions les aider, les encourager malgré les difficultés, Seigneur. Merci de prendre soin aussi des pasteurs, Seigneur, que ce soit ici ou ailleurs dans les églises et que on sache les reprendre aussi quand ils font mal ou qu'ils ont tort. Avec respect et avec amour aussi. Tout cela est évidemment pour le bien de l'Église, Seigneur. Et apprends-nous aussi à vivre dans cette société qui n'est pas vraiment toujours très juste, c'est vrai, Seigneur. Mais toi-même, tu as été souvent visé par l'injustice et tu les as acceptés. Apprends-nous à vivre de cette manière-là. Et en plus, si nous avons un patron chrétien, Seigneur, que ça soit vraiment encourageant et puissions travailler ensemble pour son bien et pour notre bien. Bénis cette Église, Seigneur, que elles deviennent de plus en plus belles par les soins qu'elles prodiguent les uns vis-à-vis des autres. Et comme je dis, apprends-nous à nous aimer réellement en Jésus-Christ. Amen.